Voilà, merci Seigneur pour tout ce qui a déjà été dit ce matin. Je crois que ce n'était pas juste des paroles, je crois qu'il y avait vraiment la présence de Dieu. Et lorsque Paul disait que ce matin, l'introduction, de réaliser ce que ça signifie que d'être en son nom, ça signifie être en relation avec. On ne peut pas être en quelque chose sans être intimement lié. C'est pas une église, c'est pas un endroit où il y a juste des prédications, juste des études bibliques, juste des gens qui se réunissent pour adorer Dieu. C'est un endroit où il y a des gens qui ont une relation avec Dieu. Parce que s'il y a toutes ces choses que je viens de citer, et s'il manque l'interaction, il n'y a pas d'église. Et Dieu n'est pas présent. L'homme utilise les religions pour tenter d'améliorer sa situation. Utilise la politique, les sciences, toutes ces choses aujourd'hui qui font notre quotidien sont utilisées pour l'amélioration de la situation de l'homme sur la planète sociale. Et dernièrement, on a entendu comment un certain moine tibétain a pris de l'ampleur dans les médias parce que lui trouve aussi que l'homme va mal et donc actuellement il fait aussi sa retraite à Nantes je crois et il enseigne les gens en essayant de leur expliquer qu'il faut avoir de la compassion, qu'il faut être gentil les uns avec les autres, qu'il faut prendre la voie médiane, la voie du milieu, c'est-à-dire ne pas provoquer, ne pas répondre à la provocation, parler d'amour. C'est son message. Et il dit que d'ailleurs, toutes les religions sont fondées sur ces valeurs-là, l'amour, la compassion, la tolérance, la reconnaissance de l'autre. Et que dans chaque homme, il y a quelque chose de bon qui, si on le met en valeur, va pouvoir servir la cause de l'humanité et la paix entre tous les hommes. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Quel programme ! Le seul problème avec ça, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez, certains d'entre vous, eu des enfants. Et vous avez vu qu'il n'y a en eux rien de bon. Il n'y a dans nos enfants rien de bon. Évidemment, ils sont mignons, ils sont charmants. Quand ils naissent, ils font la joie de notre cœur. Lorsqu'ils nous prennent dans leurs bras, ça nous fait craquer. Ils ont des moments où ils sont tellement gentils. Et lorsque vous les mettez à deux dans une pièce, que vous les laissez pendant 5 minutes, vous entendez des hurlements, des cris. Et parfois, vous en avez un qui est par terre et qui pleure parce que l'autre lui a tapé dessus. Esther et Noémie me disaient, enfin Esther me disait dans la voiture que même parfois entre elles, alors que moi j'imaginais que jamais, jamais, jamais il ne pouvait y avoir de problème entre Esther et Noémie. Je me dis, mais tu sais, parfois, bon, ça ne dure pas longtemps parce qu'on n'aime pas être fâché. Je l'ai dit, je m'excuse. Mais. C'est vrai, nous on était surpris, les garçons étaient surpris. Quoi ? Mais c'est pas possible, elles ne peuvent pas être fâchées l'une contre l'autre. L'homme aspire à la paix. Et l'homme ne cherche que ça. Il n'y a pas vraiment d'homme qui souhaite être un combattant en permanence. Il y en a quelques-uns. De façon générale, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on recherche, c'est la paix. La paix. Je veux la paix. Même ceux qui fabriquent des bombes vous disent qu'ils les fabriquent pour la paix. Ils disent comme ça, si moi je fabrique la plus grosse bombe, eh bien, l'autre, il n'aura pas le courage de m'attaquer. Et donc, je travaille pour la paix. Il faut au moins se dire ça pour pouvoir continuer à travailler là-dedans. Parce que sinon... N'est-ce pas? Et... Ils disent paix, paix. Il n'y a pas de paix. Ils mettent plein de choses en place, plein de rencontres. Mais la paix ne vient pas. La paix ne vient pas. Parce que il manque un élément fondamental. C'est celui où l'homme reconnaît qu'il est pécheur. Et que dans sa nature, il n'y a rien qui le pousse à la paix. Mais tout le pousse à la guerre. Même s'il recherche la paix. Vous comprenez? On cherche la paix. Mais tout à l'intérieur nous pousse à la guerre. Et il faut un miracle de Dieu pour que cela commence à germer dans l'homme, cette recherche qui va amener la paix d'amour dans son propre cœur et ensuite par extension à ceux qui sont autour de lui. J'aimerais que on lise un passage assez long dans les rois, ou deux rois, chapitre 22, 23. L'histoire d'un homme qui a trouvé la paix. Les rois retracent la vie et l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Lorsque le royaume a été divisé après Salomon. Mais les rois ont aussi pour fonction d'apporter des images, des types de certains caractères. Le roi Josias en est un. C'est le type de Jésus. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de symboles. Beaucoup de choses qu'on peut garder, retenir et retirer des leçons pour nous aujourd'hui croyants. Avant Josias, il y a eu pendant un court moment un roi qui s'appelait Amon, 2 ans. Et avant Amon, il y avait un roi absolument terrible qui s'appelait Manassé et qui a été... selon la parole à cause de Manassé 21 verset 9 de Rois 21 verset 9 ils n'obéirent point et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Rendez-vous compte lorsque le peuple de Dieu devient pire que ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce possible? Est-ce que ça, c'est possible? Et miraculeusement, donc Manassé a eu un fils qui s'appelait Amon, qui est mort rapidement parce qu'il a été assassiné par son peuple. Et ensuite, il y a eu Josias. Et je vais lire l'histoire. Une histoire remarquable. Et si vous n'avez pas lu récemment, relisez-la ce soir. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. 31 ans, c'est-à-dire qu'il est mort à 39 ans. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Là, on parle de sa 18e année, mais en réalité, c'est dès la 12e année, il est dit dans les rois, où il a commencé à vraiment rechercher la face de Dieu. Il lui dit, monte vers Ilkija, le grand sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Je m'arrête là parce que je trouvais ce verset absolument remarquable. On ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Qu'est-ce que ça signifie la probité ? Avec honnêteté. Sans, il n'y avait aucune espèce de question qui était posée sur l'utilisation qui était faite de l'argent. La confiance était totale, absolue, sans question. Alors, Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » N'est-ce pas ? C'est quand le cœur est prêt à croire qu'il n'y a pas de fraude chez l'autre, qu'on peut commencer à croire dans la parole de Dieu. C'est lié. Parce que si on n'a pas cet amour-là, qui est de dire, c'est 1 Corinthiens 13, je fais confiance, je crois. Peut-être aussi que lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu, tout d'un coup, on se dit, je crois, mais est-ce que vraiment tout est vrai ? Et c'est la foi, ça. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donne le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, et fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, fils serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam et Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Femme, vous savez que les femmes peuvent être prophètes. Vous savez que c'est encore valide aujourd'hui. Le Seigneur nous donne les dons si on lui demande. Fils de femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter pour tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Mais pas seulement parce que son cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu. Dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. La repentance d'un seul peut amener la paix à tous ceux qui sont avec lui. Frères et sœurs, il n'y aura pas de paix dans le monde. Il n'y en aura pas. Tant que Jésus ne vient pas, il n'y aura pas de paix dans le monde. Mais ce qu'il peut y avoir, ce sont des fenêtres, des moments où, parce que un homme, un groupe, se purifie devant l'Éternel, parce qu'ils prennent au sérieux la parole de Dieu, alors Dieu vient. Et il retient son bras, parce que la malédiction est prononcée. Il retient son bras. Et la paix vient. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le grand sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron, et il en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient les parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent du Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les sacrificateurs des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les sacrificateurs brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu des frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélek, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, après les avoir brisés et enlevés de là. Il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. L'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel, et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit: « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville répondirent: « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel, ces choses que tu as accomplies. » Et il dit: « Laissez-le, que personne ne remue ses eaux. » On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphimes et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Je demande même s'il faut vraiment commenter tout ça. Dans Jacques, il est dit que la parole est un miroir. Et que lorsque nous regardons cette parole, nous nous voyons nous-mêmes. Et à partir de là, nous avons un choix qui est soit de nous en aller en oubliant ce que nous avons vu, soit de prendre au sérieux la parole de Dieu et d'agir en conséquence de ce que nous avons appris. On aurait dit que Josias avait lu Jacques. N'est-ce pas? Au verset 11, 22 verset 11, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Il n'a pas reculé. Il ne s'est pas dit « Mens ». dans quelle affaire je me suis mis. Il ne s'est pas dit, c'est trop grand. Ce peuple a péché depuis si longtemps. Le travail est tellement immense. Est-ce que moi, Josias, petit roi, je vais pouvoir faire quelque chose? Il n'a pas réfléchi. Et avec cette foi en Dieu qui était la sienne, il a commencé un travail de nettoyage. Il a dit, Dieu est fâché contre nous, il est en colère contre nous. Et si nous, nous voulons subsister, alors il va falloir que les choses soient réglées. Il va falloir que les choses soient changées, transformées. Il va falloir que le péché qui est entré dans ce pays disparaisse. Et au verset 3 du chapitre 23, le roi se tient sur l'estrade, traite alliance devant l'Éternel, et il s'engage à le suivre. Et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois de tout son cœur et de toute son âme, et de mettre en pratique les paroles de cette alliance. Nous avons, pour la plupart ici, fait cette déclaration à Dieu. Nous avons dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie ancienne est passée. Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'aimes. Aujourd'hui, je pleure sur mon péché. Aujourd'hui, tu as remporté la victoire sur mon cœur. Et aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Aujourd'hui, je vais te servir. Aujourd'hui, ma vie sera autrement. Nous avons tous dit ça. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous en sommes restés là? Est-ce que nous avons dit, oui, je te suis, je m'engage avec toi? Et 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, 30 ans, 40 ans, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avons vu dans la parole, est-ce que ce miroir, oh, qu'il est moche? Et nous sommes retournés, nous sommes partis. Jusqu'à la fois prochaine où on a... Oh, il n'est pas beau. Nous nous sommes vus chaque fois, à de multiples reprises. Et nous avons fait le constat que ça n'allait pas. Nous avons fait le constat que nous n'étions pas beaux. Oui, mais Seigneur, je me suis engagé avec toi. Mais après, c'est la grâce. Certes. Allez avec moi dans 1 Roi 13. C'est l'histoire de Joas. En fait, c'est l'endroit dont il est question dans 2 Rois, hein, au chapitre 23, il brûle au verset 17. « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel. » En fait, un homme de Dieu, un prophète, avait prophétisé que naîtrait Josias et qu'il mettrait à sac tout le pays et qu'il déménagerait tout le pays. Et lors de cette prophétie, alors que le prophète était en danger d'être arrêté par le roi et d'être exécuté. Donc 1 roi 13, verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu, donc la prophétie, hein, contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. C'est que Dieu nous pardonne, alors que nous ne méritons pas d'être pardonnés. Dieu nous accorde son pardon, alors que nous n'avons rien fait pour ça. La grâce de Dieu s'accomplit lorsque nous agissons sur le segment où il nous demande d'agir. Lorsque Jésus lui-même a guéri un homme qui avait la main sèche, je crois, il lui dit « Étends ta main ». La grâce ne va pas étendre la main à notre place. Lorsqu'il dit « Lève-toi et marche », la grâce ne va pas faire l'effort de nous soulever et nous faire marcher. On a vu des réunions où ça existe, ça. Où on prie pour les gens et ensuite on les lève de leur chaise roulante pour les faire marcher. C'est terrible de voir ça. Eh bien, la grâce, c'est lorsque l'homme répond avec foi à la parole de Dieu. Alors la grâce vient. Et la grâce pour nous, lorsque nous lisons la parole et que nous voyons comment nous sommes, c'est de répondre à cette parole et de nous lever dans notre cœur et de répondre. Et comme il est dit là, à la fin du verset 3, mettre en pratique les paroles de cette alliance. Est-ce que lorsque nous avons fait alliance avec Dieu, lorsque nous lui avons dit « Seigneur, maintenant je te donne ma vie, je me détourne de mon ancienne vie », est-ce que nous avons dit en même temps « Je vais mettre en pratique ces choses » ou est-ce que nous nous reposons sur ce que nous appelons la grâce en disant « Mais le Seigneur ne l'a pas fait, alors j'attends. » Le Seigneur ne m'a pas changé encore, alors j'attends. Il y a une gradation, il y a une progression. Mais peut-être que cette progression est beaucoup trop lente par rapport à ce que le Seigneur voudrait qu'elle soit. C'est l'apôtre Paul qui parle du salut et du travail qu'il y a à faire dans Philippiens. Travaillez à votre salut. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver, mais plus que ça. C'est ça qui va sauver ceux qui sont autour de nous. C'est ça qui va faire que lorsque notre vie sera complètement changée, transformée, nettoyée, le Seigneur va pouvoir agir au travers de nous. Et il va falloir qu'on passe très rapidement sur certains points. Comme d'habitude. Donc je vais voir quelques points beaucoup plus pratiques. Verset 4. Le roi ordonna à Elkija, le grand sacrificateur, au sacrificateur du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron. Et il en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiacs, et à toute l'armée des cieux. de façon tout à fait pratique. Nous avons des choses qui parfois nous ennuient et qui reviennent de façon cyclique. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Je me souviens que lorsque j'étais éducateur à l'arc-en-ciel, les gens venaient souvent me voir et me disaient « Mais comment je fais pour m'arrêter de fumer ?» Et je leur répondais invariablement « Ben, c'est pas compliqué, pour arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer. » C'est-à-dire qu'au lieu de fumer, tu fumes pas. Donc, ben, on a déjà un choix, n'est-ce pas ? On dit « Oui, mais c'est plus fort que moi et tout. » Alors, on arrête de fumer, ça c'est la première des choses. Et ensuite, si vraiment on veut arrêter de fumer, on enlève autour de nous tout ce qui nous fait penser au tabac. Donc le tabac lui-même, les cigarettes, la machine à rouler, les briquets, les allumettes, les cendriers. Donc déjà tout l'univers, l'environnement, on l'enlève. Ensuite, je dis, ben, tu vas plus au café. Parce que, évidemment, les cafés tabac, on peut acheter un petit café, une petite cigarette. Tu vas plus au café. Tu veux pas au café ? Non. Donc, plus au café, tu... Ah oui, mais j'ai des amis qui... Bah, tu rencontres... Tu évites tes amis pour un certain temps. Ceux qui fument. Et s'ils veulent pas s'arrêter de fumer à ta compagnie, eh ben, tu les évites. Tu ne vas pas avec eux pendant une certaine période et tu leur expliques, ils comprendront. Et peut-être que ça leur donnera de bonnes idées à eux aussi. Lorsque tu es invité et que les gens fument, eh bien, tu refuses. Et tout ça, ça coûte. Ça coûte, parce que c'est une décision qu'il faut prendre. Et ce qui fait qu'on prend la décision, c'est l'envie initiale. Est-ce que, oui ou non, je veux arrêter ? Et je prends ça pour tous les péchés. Pas seulement le tabac, qui est juste un exemple. Je prends ça pour tous les péchés. Si on a un péché qui est cyclique, répétitif, qui revient. Si par exemple, je suis quelqu'un de très impatient. Et que je veux que ça change. C'est pas tout de faire alliance avec Dieu sans arrêt et de dire mais Seigneur, alors change ton environnement. Fais des choix différents. Lorsque tu sais que ce type de situation va amener ton impatience à te mettre en colère, eh bien, arrête-toi alors qu'il est temps. Ah, tais-toi s'il faut se taire. Demande pardon tout de suite s'il faut demander pardon. Parce qu'en général, on est impatient avec quelqu'un, n'est-ce pas ? Parce qu'on peut faire des histoires qui durent longtemps comme ça. Ça peut durer une journée, deux jours. Et il y en a un qui fait la tête. Puis quand l'autre arrête de faire la tête, c'est l'autre qui fait. C'est quoi ? Et le Seigneur va travailler là et nous utiliser autour. C'est une illusion si nous croyons cela. Le péché, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Je dis pas qu'on ne pêche pas. Je n'ai jamais dit ça. Mais le péché doit s'arrêter. Il y a des choses qu'on a fait dans notre passé. Il y a des pratiques qu'on a eues dans notre passé. Et peut-être que ça va faire ruminer quelques-uns ce que je vais dire. Mais on a des pratiques, notamment avec nos jardins. Je plante à ce moment-là en fonction de la lune, des étoiles, en fonction du temps, en fonction de la période, en fonction de la Saint-Machin ou de la Saint-Truc. Et on pense qu'on a raison de le faire. Il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. On croit qu'on fait bien en plantant ou en récoltant à certaines périodes. En faisant cela, on est juste en train d'adorer les esprits. Il est fou, Daniel. Mais depuis tout le temps, mes grands-parents, ils ont fait comme ça, et avant, et avant, et avant, et avant. C'est vrai. À l'époque de Josias, ils le faisaient. Demandez à un scientifique quelle influence a la lune sur les plantes. Je sais pas, Michael, t'as une idée? Tu fais de la chimie? J'ai posé la question déjà à des personnes. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Entre les récoltes, toutes ces choses-là, il n'y a pas de rapport. Vous pouvez y aller, vous pouvez regarder. On ne sait même pas quel est le rapport réel avec les marées et la lune, apparemment. On n'a pas de certitude, il paraît. Je ne vais pas me lancer sur ce... Mais ce sont des croyances. Et nous avons fait ces croyances, même lorsqu'on voit une étoile et qu'on fait un vœu. Il y a eu la nuit des étoiles. J'entends. Ça a l'air anodin, n'est-ce pas? Et en soi, peut-être c'est pas si dramatique, mais c'est l'accumulation de ces choses-là. Et le poids qu'on y met. Qui a de l'importance. Je pourrais aller dans des détails, mais lorsque nos vies, lorsque nos sorties, c'est-à-dire lorsque cela est géré, non pas par ma relation avec Dieu, mais à cause de l'interaction des planètes et du temps qui fait, alors où est-ce que je suis en maîtrise de la situation ? Où est-ce que Dieu a la place? S'il y a ces choses-là, si vous avez des livres qui vous enseignent ces choses-là, et si, de toute façon, si vous voyez certains livres, vous voyez que ça remonte à des pratiques de sorcellerie. En fait. Si vous avez ces choses-là avec vous, eh bien, je vous recommande une chose, c'est de faire comme Josias, de vous en débarrasser. Josias avait cette confiance que tout ce qui était marqué dans le livre de la loi, tout ce qu'il avait découvert, était vrai. Il n'avait plus aucun doute pour lui. Il a choisi d'être radical. Il vaut mieux en jeter trop que d'en jeter pas assez. Jésus dans le temple, et c'est une image. C'est un type de cela, cette période où Josias a tout déménagé. Jésus a déménagé le temple avec les commerçants, avec les marchands, avec les idoles qui étaient là. Jésus était radical. C'est le même caractère. Jésus était radical et il nous demande d'être radical avec les péchés. C'est lorsque nous en sommes à nous poser la question, mais est-ce que vraiment... Vous vous rappelez cette phrase? C'est dans Genèse. Est-ce que vraiment Dieu a dit tu ne mangeras pas? N'est-ce pas? Lorsqu'il y a ce petit doute qui vient, alors vous dites oui, Dieu a dit. Dieu a dit. Lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai détruit des dizaines et des dizaines de disques. Certains étaient sans doute pas si mauvais que ça, mais j'ai tout détruit. J'ai connu un homme qui avait trempé dans la... qui était un sorcier. Il a détruit pour des dizaines de milliers de francs d'ouvrages. Et si lui... Et lui savait quels étaient les liens qui pouvaient bloquer les gens dans les assemblées. Il savait quels étaient les mécanismes, les pensées qui étaient liées à des esprits démoniaques. Il a tout jeté. Tout. Des dizaines et des dizaines. Brûlés. Pas jetés. Brûlés. Réellement brûlés. Mon père me racontait que il y a dans certaines situations de il a connu une famille où il y avait un livre de sorcellerie qui se passait de père en fils, qui se transmettait. Et un des enfants s'est converti. Et il a vu ce livre et il l'a jeté. Et il y a eu des manifestations absolument terribles dans la maison, les jours qui ont suivi. Et ce livre a réapparu sur la cheminée, je prends un endroit précis. Il y a des situations où il faut être radical. Et il faut brûler. C'est déjà beaucoup trop tard et j'ai encore fait 10% de ce que j'ai préparé. Mais l'idée, elle est là. C'est que lorsqu'on se donne au Seigneur, c'est une chose. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, c'est une chose. Mais le Seigneur attend de nous que nous ne soyons pas oublieux. Que lorsque nous lisons quelque chose, lorsque nous entendons quelque chose, nous ne partions pas en disant « Oui, mais... » Mais que nous prenions au sérieux les choses et que nous agissions. Parce qu'après, ce ne sera pas la peine de venir et de dire « Oui, mais je suis toujours dans le même péché. Je ne m'en sors pas. » Il y a des choses radicales qu'il faut faire. Il y a des nettoyages radicaux qu'il faut faire. Dans notre environnement, dans nos amis, il y a des gens qu'il vaut mieux éviter de voir. Oui, mais ça, tu fais de nous alors une secte. C'est pas de ça dont il s'agit. Il y a des gens qu'on ne peut pas continuer à voir si nous sommes faibles dans certains domaines. J'ai des problèmes avec avec certaines. J'ai des problèmes. Il a détruit les maisons de prostituées. Certains ont des problèmes avec ça, avec le sexe. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Se cacher les yeux et de temps en temps regarder. Il faut couper. Si le problème vient du fait qu'on a Canal+ et que là-dessus il y a des films terribles qui passent, eh bien on enlève la connexion. Si le problème c'est l'ordinateur et qu'on n'arrive pas à s'empêcher d'aller sur ces sites, eh bien on enlève l'ordinateur. C'est pas la peine d'une main de dire de cliquer et de l'autre, Seigneur, guéris-moi. C'est quoi? Il faut être sérieux avec la parole de Dieu. Et si ces choses-là nous gouvernent, si ce sont ces choses-là qui nous font marcher, alors il faut les couper, il faut les arrêter. N'est-ce pas? Si ton bras ou ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Jésus était radical, et il est radical. Et si nous voulons voir du changement dans nos propres vies, et dans l'Église, et dans la région, il va falloir que nous agissions de façon radicale. Et que tout ce qui jusqu'à présent a été toléré, il y a eu des rois qui, d'une certaine manière, ont voulu servir Dieu, mais qui étaient tolérants sur l'idolâtrie. Josias était le seul. qui a fait les choses telles qu'il fallait. C'était le seul. Le prochain, c'était Jésus. Mais les prochains, ça peut être nous. Ça, c'est vraiment la différence. Les prochains, ça peut être nous, ça peut être toi, ça peut être moi. Et ça doit l'être. Parce que nous avons plus de choses que Josias. Nous avons Jésus. Jésus est venu pour prendre nos péchés. Son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Et il nous a acquis la victoire sur ces choses. Et tout ce que Josias a fait par la force, nous pouvons l'accomplir spirituellement. Et il faut que nous marchions dans ces voies-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été dur, mais je crois que c'est sérieux. Et que le fait d'être radical, je ne connais pas vos situations individuelles en détail, mais je crois que nous avons là une clé. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous emmener dans cette direction-là, où les choses qui ont été tolérées jusque-là seront anéanties. Les verbes, le nombre de verbes de destruction dans ces deux chapitres est énorme. Je crois qu'il y en a plus de 30. Il abattit, il détruisit, il brûla. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? J'aimerais que on passe un tout petit temps en prière, mais que chacun puisse prendre conscience de sa vie, des environnements qu'il doit faire disparaître. Et que devant le Seigneur, il prenne le parti aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Qu'il prenne le parti aujourd'hui de couper et qu'il prenne la décision aujourd'hui de mettre en œuvre de façon pratique les choses. Seigneur, tu nous vois tous. Tu connais nos cœurs et tu connais aussi, Seigneur, nos réactions à ce qui a été dit. Et Seigneur, je prie pour que nous ne repartions pas comme des auditeurs oublieux. Seigneur, ni mes frères et sœurs, ni moi. Seigneur, nous réalisons à quel point tu étais radical. À quel point, Seigneur, tu ne partageais pas avec le péché. Ta parole dit qu'il n'y avait pas de péché en toi et que le malin n'avait rien en toi. Et Seigneur, nous voulons te remettre ces situations où nous chutons sans arrêt. Et Seigneur, nous voulons nous engager ce matin. Je veux m'engager, moi. Et faites-le dans votre cœur. Si le Seigneur vous a parlé, engagez-vous. Engagez-vous à réduire à néant tout ce qui peut vous amener à pécher. Nous voulons nous engager, ô Dieu, devant toi. Seigneur, à détruire, à éliminer de nos vies tout ce qui peut nous amener à continuer à pécher. Et à déshonorer ton nom. Et à faire que, finalement, le malin se moque de toi parce que nous sommes désobéissants et parce que nous n'accomplissons pas les choses que nous devons faire. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont décidé devant toi ce matin de faire cela. Je prie afin, Seigneur, que tu les portes, que tu les gardes, que tu leur donnes, Seigneur, la persévérance d'aller au bout de ce qu'ils ont décidé. Qu'ils soient, Seigneur, ceux qui détruisent tout ce qui peut les amener à pécher. Seigneur, afin que tu puisses les utiliser pleinement et entièrement. Afin que tu puisses m'utiliser, Seigneur, pleinement et entièrement pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus.